Chapitre 3. L'avocat prit une automobile et se fit conduire à Nanterre. Il eut la bonne fortune de rencontrer le négociant dont il avait parlé à son ami et d'obtenir aussitôt le renseignement désiré. « Cette maison est boulevard du Nord, 23. Suivez ma rue, vous y arriverez en 2 minutes. » M. Desjonchères, s'empressant de mettre à profit l'indication, fut reçu, boulevard du Nord, par une femme encore jeune, au visage avenant et à l'accueil aimable. Cependant, quand il exposa sa requête, beaucoup de défiance perçait dans la question que Mme Cardier lui posa. « Pourquoi, monsieur, désirez-vous connaître l'adresse de Mlle de Plémont ?»« Je suis avocat, » répondit-il en tendant sa carte, « et pour une affaire très sérieuse, il est nécessaire que je voie Mlle de Plémont, ou plutôt sa mère. » Madame Cardier connaissait la réputation comme avocat de M. Desjonchères. Elle se rassura et un léger sourire passa sur son visage. « Il est amoureux, » pensa-t-elle, sans réfléchir que, dans ce cas, il n'eût pas demandé une adresse qu'il devait connaître. « Ces dames demeurent rue Vavin, 6. Mlle de Plémont est venue ici ce matin. »« Ce matin ?» répéta l'avocat en dissimulant son vif étonnement. « Oui, elle me rapportait son ouvrage et venait en chercher pour 15 jours. Elle et sa mère sont des femmes bien distinguées, monsieur. C'est triste de les voir dans le malheur. Mademoiselle Gertrude est si bonne, si courageuse. Elle sera un trésor pour l'homme qui l'épousera. » Tout en souriant intérieurement des idées matrimoniales de Madame Cardier, M. Desjonchères constatait, non sans surprise, qu'elle ignorait le départ de Mesdames de Plémont. « Je connais l'adresse de la rue Vavin, » dit-il, « mais ces dames sont parties aujourd'hui pour un court voyage. Elles ont omis de laisser leur adresse au concierge et il est urgent qu'elles reçoivent les nouvelles qui les intéressent. » « Je ne puis rien vous dire, monsieur, » répliqua Madame Cardier, dont la défiance s'éveilla de nouveau. « Le voyage ne me regarde pas. Si elles sont parties pour 2 ou 3 jours, elles n'avaient pas besoin de laisser d'adresse. » « Certainement, leur absence sera courte, puisque Mademoiselle de Plémont ne m'a parlé de rien et a emporté beaucoup d'ouvrages. On ne travaille pas en voyage. »« Évidemment, mais je désirais leur envoyer une dépêche aujourd'hui même. C'est pourquoi, sachant que vous les faisiez travailler, je me suis permis de vous questionner. »« Je regrette, monsieur, de ne pas mieux vous renseigner, » répondit assez froidement Madame Cardier. M. Desjonchères revint à Paris, très ennuyé de son insuccès. « Pour moi, pensait-il, elles ne font aucun voyage et sont cachées à Paris. Il s'agit de les découvrir, mais la police y parviendra avant nous. À notre époque, comment se cacher longtemps? Dans quelle affaire est engagé mon pauvre Bernard? Amoureux comme un fou, il n'en fera qu'à sa tête. Qu'est-ce que cette jeune fille? Est-elle coupable comme c'est à craindre? Ou est-ce une malade qui a su tromper un homme expérimenté? Le fait ne serait pas nouveau. Il se voit souvent, et dans l'histoire, nous en avons des exemples éclatants. 7 heures sonnaient quand il arriva rue Vaugirard, mais le docteur Sébron n'étant pas rentré, il alla dîner chez Foyot, puis revint s'installer dans la bibliothèque de son ami. C'était une grande pièce, arrangée avec un sens artistique très remarquable. Remplie d'objets d'art, de livres curieux, elle révélait les goûts qui, dans la famille de Bernard, se transmettaient de génération en génération. Son aïeul avait été lui-même un peintre de grand talent. Sébron, dans ses rares moments de loisir, venait se reposer au milieu d'une atmosphère intellectuelle qui le transportait loin de ses travaux trop positifs et trop absorbants. Il affectionnait plus particulièrement sa bibliothèque depuis qu'en imagination, il y voyait rayonner la beauté de Gertrude. En l'attendant, M. Desjonchères essaya de lire, mais les mots prenaient des apparences fantastiques et le sens des phrases se rapportait toujours à ses préoccupations. « Quelle lamentable affaire !» dit-il avec impatience. Le docteur Sébron, qui avait été obligé de remettre au soir plusieurs visites, rentra à 9 heures passées. « Eh bien, Henri ?»« Eh bien, rien. J'ai découvert facilement la maison, mais la personne à qui j'ai parlé m'a renvoyé rue Vavin. Elle ne connaissait pas le départ sur lequel je ne me suis pas étendu. Mais, circonstance surprenante, Mademoiselle de Plémont est allée, ce matin même, chercher de l'ouvrage. »« Ce matin ? S'écria Bernard. Ce matin, elles ont quitté leur maison, m'as-tu dit, à 6 heures ?
Oui.
À présent, je comprends leur dessein. Elles ont emporté du travail pour 15 jours afin de n'avoir pas à sortir et se taire dans un quartier quelconque où elles n'ont aucune chance de te rencontrer.
Tu ne crois pas au voyage ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'il est inutile, parce que Madame de Plémont est là. Elles donneront par lettre congé de leur appartement, à moins qu'elles n'aient chargé un tiers d'agir pour elles.
Oui, Monsieur de Chantepie.
L'avocat ne répondit pas et détourna son regard qui eût peut-être trahi sa secrète pensée.
Comment la découvrir avant l'intervention brutale de la police ? S'écria Sébron.
Elle t'écrira, crois-tu ?
Oui, elle m'écrira. Elle ne peut pas ne pas m'écrire.
Mais elle ne donnera pas son adresse.
Est-elle catholique ? A-t-elle des habitudes pieuses ?
Oui, répondit Bernard, étonné d'une question qui lui semblait bien intempestive. Elle va tous les jours à la messe de 6 heures. Si elle est catholique, convaincue et même ardente. Rien n'était charmant comme ces discussions avec moi quand nous abordions certains sujets.
Tu m'as dit que le malheureux Chantepie te parlait d'elle fréquemment.
Chaque fois que j'allais le voir, et depuis quelques mois, il m'appelait souvent. Il l'aimait sincèrement. D'après un mot, j'ai lieu de croire qu'elle sera son héritière.
Ah, pourvu qu'il n'ait pas fait de testament en sa faveur.
Tu considères que ce serait une charge contre elle ? Tu la soupçonnes, alors que nulle charge n'existe, parce que le soupçon ne peut pas l'effleurer.
Pour toi, oui, mais pour ceux qui n'ont aucun intérêt à la défendre, pour la justice.
Sébron s'irritait, mais M. Desjonchères voulait le préparer sans faiblesse à un avenir cruel.
Bernard, écoute-moi de sang-froid. Cette jeune fille appartient peut-être à la catégorie de certaines malades que tu connais aussi bien et même mieux que moi. Tu sais combien elles sont habiles et dissimulatrices.
Pas plus malade que coupable, répondit avec fermeté Sébron.
Tu t'égares, mon pauvre ami.
Il passa dans la salle à manger pour dîner, mais presque aussitôt, il repoussa son assiette et revint avec M. Desjonchères dans la bibliothèque.
Tu as tort de ne pas mieux te soigner, Bernard. Quelles que soient les conséquences de cette singulière affaire, tu as et tu auras besoin de tes forces.
Je suis nourri par l'angoisse et l'inquiétude, répondit distraitement Sébron. Mon rapport est envoyé à Monsieur de Monvoie.
Déjà ?
En te quittant, tantôt, je suis rentré chez moi pour rédiger ce rapport. C'était horrible. Connaissant les soupçons qui pèsent sur la femme que j'aime, chaque mot peut être un appui pour l'accusation.
Il marchait, agité, dans la vaste pièce.
Je ne veux plus être questionné sur cette mort. J'ai rempli mon devoir, je ne répondrai plus rien.
C'est horrible, horrible.
Tu es libre d'agir comme il te plaira, mon cher Bernard.
Je n'en sais rien, mais je ferai comme si j'étais libre, en effet, répondit-il brièvement.
Et sa pensée s'en alla vers Gertrude, seule, accusée et innocente. Dans son cœur plein de pitié et d'amour généreux, il n'y avait aucun mouvement égoïste. Il ne songeait qu'à la défendre, la protéger, et les soupçons de son ami, loin de l'ébranler, stimulaient ses sentiments.
« Mais pourquoi ta question sur ses idées religieuses ? » demanda-t-il en s'arrêtant tout à coup devant M. Desjonchères.
« Nous avons probablement là un moyen rapide de les retrouver. »«
Comment cela ?»
C'est bien simple. Si Mademoiselle de Plémont écrit, elle oubliera qu'il est imprudent de porter sa lettre à une poste du quartier, car je ne crois pas que ces pauvres femmes soient bien habiles. Rien de plus aisé alors que de surveiller l'église ou la chapelle la plus voisine.
Excellente idée, Henri. Mais hélas, je n'ai pas encore la lettre.
Et vois ton inconséquence. Tu admets qu'une femme soit, en même temps, criminelle et pieuse.
C'est admissible, j'ai rencontré le cas.
Tu as rencontré de la superstition ou une vague sensibilité religieuse, très féminine et très inapte à bien conduire la volonté. Mais chez Mademoiselle de Plémont, la foi éclairée, basée sur un fond d'instruction solide, se manifeste non par des sensations,
mais par l'effort sur elle-même, le courage et l'abnégation. Les deux cas n'ont aucun rapport. J'ai observé de près Gertrude sur ce point spécial. Elle m'a souvent vivement intéressée et m'a même suggéré des réflexions qui, avant que je la connusse, ne s'étaient pas présentées à ma pensée. Cette réponse frappa l'avocat sous bien des rapports. Il s'en souvint plus tard lorsqu'il vit évoluer l'esprit de son amie. Elle lui était, en attendant, une preuve nouvelle d'un attachement évidemment irréductible. Le jeudi, M. de Monvoy envoya un mot au docteur Sébron pour le prier de venir le voir à 5 heures. Bernard entra dans le cabinet, étreint par une angoisse qu'il sut dissimuler. « C'est à titre amical et non officiel que je vous ai appelé, mon cher Sébron, » lui dit M. de Monvoy. « L'enquête que je pousse vivement a marché depuis 3 jours. J'ai bien des choses à vous dire. Malheureusement, elles sont d'un ordre très pénible. » « Vous connaissez mon opinion, » répondit froidement Bernard. « Elle ne variera pas. Si la justice persiste dans sa première voie, elle s'égarera d'une façon monstrueuse. » Beaucoup de compassion se lisait dans l'expression de M. de Monvoy et le docteur s'en hérita. « Je doute, » reprit le juge d'instruction, « que vous conserviez votre opinion en face de l'évidence. Vous n'avez reçu aucune lettre, vous n'avez rien découvert sur la nouvelle adresse de Mme de Plémont. » « Non, et vous ?»«
Non plus, mais nous arriverons vite. Vous ne savez pas encore leur histoire ?»«
Non, elles ne m'ont pas dissimulé, je vous l'ai dit, qu'une honte pesait sur elles. Quant à leur honorabilité personnelle, elle est inattaquable. » Il s'était promis de rester calme, mais sa voix le trahissait malgré lui. « Monsieur de Plémont, reprit le magistrat, a fait des faux et des détournements comme administrateur d'une compagnie. Condamné à 5 ans de prison, il est arrivé ces jours derniers à Paris, après avoir purgé sa peine. Sa femme lui envoyait fréquemment un peu d'argent.
« Elles en gagnaient, » dit Sébron d'un ton bref.
« Oui, mais leur situation était précaire, et le retour de M. de Plémont la complique encore. Il est malade et a dû se réfugier auprès de sa femme et de sa fille, car, sans laisser d'adresse, il a quitté subitement le petit hôtel où il était descendu. » « Vous saviez où il s'était logé ?»«
Oui, je l'ai su tout de suite par la préfecture de police et j'espérais ainsi parvenir à mon but. Il faut chercher autrement. Le testament de la victime est connu. Monsieur de Chantepie donne tout à Mademoiselle de Plémont. » Le magistrat se tut un instant, attendant vainement une observation de Sébron.
« Continuez, je vous prie, » dit celui-ci. « Mais avant, pourquoi Mademoiselle de Plémont est-elle soupçonnée et non sa mère ?» Chaque soir, cette jeune fille allait faire la lecture à son cousin. Quelquefois, sa mère l'accompagnait, mais rarement depuis sa maladie. C'est Mademoiselle de Plémont qui préparait souvent la piqûre dont Monsieur de Chantepie avait besoin. « C'est moi qui lui ai appris, » dit avec calme Sébron. « Après ?» Après, un reste d'aconitine était caché dans la commode de Mademoiselle de Plémont. Le papier, trouvé par vous sur la cheminée de M. de Chantepie, s'adapte à la déchirure du papier découvert dans le tiroir et contenant le reste d'aconitine dont je viens de parler. Une pâleur de cendre se répandait sur les traits de M. Sébron.
Sait-on si Mademoiselle de Plémont est allée dimanche soir chez M. de Chantepie ? Demanda-t-il d'un ton encore ferme.
Oui, on le sait. Écrasé par ses réponses successives, Sébron sentait tourbillonner ses idées. Une seule observation fera crouler cet échafaudage, dit-il avec effort. Elle se cache. Comment, se cachant, pourrait-elle hériter ? C'est un non-sens. Ces non-sens ne sont pas rares dans l'histoire des crimes. Elles ont entassé maladresse sur maladresse les malheureuses. « Enfin, votre objection ne tient pas devant la nécessité où elles étaient d'avoir de l'argent. Elles en ont pris, voilà tout. »«
Vous dites, elle, vous soupçonnez donc également la mère ?»«
Peu, c'est une manière de dire. Pardonnez-moi de parler aussi crûment, mais pour moi, Mademoiselle de Plémont a évidemment tout conduit. Un secrétaire était ouvert dans lequel M. de Chantepie mettait ses valeurs. Valeurs au porteur, remarquez bien. » De plus, pour une raison inconnue, il avait réalisé une somme de 10 000 francs que le Crédit Lyonnais lui envoya le samedi à 3 heures. Alors, il eût fallu que Mademoiselle de Plémont fût au courant des affaires d'argent de M. de Chantepie. Pourquoi pas? C'est très supposable. Sébron ne pouvait nier ni les faits ni leur enchaînement, mais quel que fût le poids qu'il écrasait d'intérieurement, il conservait une contenance ferme. « Vous affirmez, dit-il, que M. de Plémont, rentré à Paris, a vu sa femme ?»« Oui, j'en suis sûr. »« Est-ce samedi ?»« Samedi matin, en effet, d'après le concierge, un homme ayant l'air très malade est monté chez ces dames. »« Ah, je comprends maintenant !» M. de Monvoy se trompa sur le sens de cette exclamation, et malgré sa sympathie pour la douleur de Sébron, il éprouvait un vague soulagement à la sentir ébranlée. « Mon opinion s'est vite formée, lui dit-il, parce que, dès l'abord, les faits semblaient probants. À présent, voyez-vous que mon conseil était bon ?»« Je ne vois rien, parce que je ne pense pas et ne penserai jamais comme vous. Jamais je ne serai égaré par les apparences quand il s'agira d'une femme comme Mademoiselle de Plémont. Si on vous affirmait, avec semblant de preuve, que je suis un assassin, que diriez-vous ?»« Je hausserai les épaules. » C'est précisément mon geste sur l'accusation portée contre ma fiancée. Ma fiancée, vous entendez bien ? Trop bien, répondit le magistrat. Puissiez-vous avoir raison, Bernard. Mais pour vous-même, je crois mieux faire en ne vous cachant rien. Je vous sais homme à regarder le malheur en face. Assurément, dit Sébron d'une voix irritée. Expliquez-moi votre phrase de tout à l'heure, je comprends maintenant. Samedi soir, j'ai remarqué l'air souffrant de Madame de Plémont, qui sort seulement de convalescence, et j'ai su qu'elle avait éprouvé une vive émotion. Or, vous me dites que son mari était venu le jour même ? Oui, elle devait d'ailleurs être informée de sa visite. Elle et sa fille lui écrivaient régulièrement en lui envoyant de petites sommes économisées sur leur travail. J'ajoute que Madame de Plémont, dans le désastre amené par les turpitudes de son mari, n'a pas retiré un centime de sa fortune personnelle. Le dossier du procès de M. de Plémont est entre mes mains depuis ce matin et l'attitude de Mme de Plémont dans cette épreuve a été absolument correcte. « Comment ose-t-on les soupçonner ? » s'écria Sébron. « Leurs efforts, si honorables pour vivre et pour soulager ce misérable, ne sont-ils pas des garanties suffisantes ?»« Mon cher docteur, ces femmes luttaient pour gagner le pain quotidien. » Et après de longues habitudes de bien-être, on se fatigue vite d'une pareille lutte. Nous sommes en plein dans l'absurde, s'écria Bernard. Monsieur de Chantepie, dans cette phase nouvelle, leur serait venu en aide. En êtes-vous certain ? On le croyait dans une grande aisance, il avait à peine 7 000 francs de rente. Enfin, c'était un original, vous le savez bien. Oui, je sais, dit impatiemment Sébron. Mais il avait assez de générosité dans le caractère pour faire un sacrifice. Soit, croyez-vous qu'on puisse soupçonner quelqu'un de la maison ? La femme de charge, par exemple. Sophie Brion ? Mais non ! C'est la meilleure et la plus sûre des femmes de confiance. Elle servait son maître depuis bien des années. Comment expliquer la conitine chez Mademoiselle de Plémont ? Comment expliquer la présence de cette jeune fille chez son parent à l'heure même du crime ? L'heure du crime, elle ne peut être précisée à une demi-heure près. J'ai parlé par hypothèse. Hypothèse confirmée par le médecin légiste. Quand nous aurons questionné Mademoiselle de Plémont, peut-être verrons-nous une autre piste. Jusque-là, j'affirme que vous faites fausse route. L'affirmation d'un homme qui connaît si bien Mademoiselle de Plémont devrait compter pour beaucoup, surtout quand cet homme est habitué à observer et à juger. Vous avez du cœur et vous vous repentirez d'accuser, de traquer une femme innocente, une jeune fille. Bernard, mon cher enfant, dit M. de Monvoy avec une vive émotion, croyez que ma tâche est bien pénible. Je pourrais la passer à un autre, j'y ai pensé, et c'est à cause de vous que je la garde. À un moment donné, vous trouverez bon que le magistrat soit un ami. Sébron ne pouvait être insensible à des paroles aussi bonnes et affectueuses. mais il était en proie à des sentiments trop violents pour exprimer sa gratitude. M. de Monvoy le comprit et ne fut pas offensé de son silence. « Convenez-vous-même, reprit-il, que la justice ne soupçonne pas légèrement, mais soupçonne sur des présomptions fort graves qui sont presque des preuves matérielles. » Pendant l'entretien, M. de Monvoy avait évité ce dernier mot. Il le prononça alors à dessein, tant il avait à cœur de combattre, jusque dans ses derniers retranchements, la décision du docteur Sébron. Preuve matérielle. Le mot atterra Bernard, mais il n'en laissa rien voir et répondit simplement « Présomptions ou preuves sont des leurs, vous le saurez un jour. » En quittant le juge d'instruction, il avait encore à faire quelques visites et, dans le désarroi de son esprit, il eut la tentation de se dérober à sa tâche. Mais se ressaisissant presque aussitôt, il examina ses malades avec autant de soin et aussi longuement que si son cœur n'avait pas été torturé. On lui demanda plusieurs fois s'il n'était pas souffrant. Il répondit « J'ai sur les bras une affaire préoccupante. Il est possible que, dans 2 ou 3 jours, je sois obligé de m'absenter et de me faire remplacer auprès de mes malades. Je m'en excuse à l'avance. » Une dame lui parla de la mort de M. de Chantepie. « C'est vous qui avez été appelé, docteur ? C'est affreux, vraiment ! Personne n'est en sûreté ! Savez-vous si on est sur la trace des assassins ?»« J'ai fait mon rapport, répondit-il brièvement. Mon rôle est terminé. » Mais cette question l'avait bouleversé. Déjà, il le savait, un journal parlait mystérieusement d'une femme, jeune et belle, qui devait être la coupable. Quel bruit, lorsque Gertrude arrêtait, il se placerait auprès d'elle en disant « C'est ma fiancée, il est impossible qu'elle soit coupable, je le jure. » Après avoir envoyé sa voiture, il dîna hâtivement dans un restaurant et se dirigea à pied vers la rue Solferino. L'éclat auquel il pensait ne l'inquiétait pas. Cependant, les journaux du monde entier parleraient de ce procès qui deviendrait sensationnel à cause de son amour pour l'accusé. « Le monde entier, c'est bien peu de choses, » se dit-il avec lassitude. Et, habitué à tirer des déductions de ses pensées, il songeait « La douleur extrême d'une situation extraordinaire m'amène à penser que le monde est bien petit et, en considérant le rien de ce monde, mes facultés tombent dans le vide. Cependant, elles ne sont pas créées pour le vide. Chère et croyante Gertrude, je connais sa réponse si je lui parlais de mon impression. » Il raconta d'un trait à son ami sa terrible conversation avec le magistrat. Monsieur Desjonchères l'interrompait de temps en temps pour poser une question, préciser un fait, et quand Monsieur Sébron cessa de parler, l'avocat fut frappé d'un mutisme trop significatif pour Bernard. « N'exprime pas ta pensée, elle est atroce !» s'écria-t-il. « Oh, ma chère Gertrude !» La tête dans les mains, il pleura comme un homme sait pleurer quand il est vaincu par la douleur. Concerné, son ami marchait avec agitation, sans oser parler. « Bernard, mon pauvre Bernard !» dit-il enfin en lui touchant l'épaule. « Je t'en prie !» Sébron se redressa vivement. « Pardonne cette faiblesse et prépare-toi à me rendre service, » dit-il résolument. « Quel service ? D'abord, c'est toi qui la défendras si elle est arrêtée. J'ai une confiance absolue dans ton jugement et ton talent. Soit, je la défendrai non avec mon talent, mais avec mon cœur, puisque tu l'aimes. » « Merci, Henri. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Maintenant, je t'en prie, va dès ce soir chez Monsieur de Monvoy. Dis-lui que tu seras l'avocat, fais-le parler, tu sauras questionner, alors que moi, je suis trop ému, surtout trop irrité pour penser. » « Mais cette jeune fille n'est pas arrêtée, » répliqua M. Desjonchères. « Me poser comme son avocat est prématuré, et ce sera le premier mot de M. de Monvoy. » Est-ce que, dans un cas pareil, la famille n'a pas le droit de choisir un avocat pour la défense ? Si, certainement. Eh bien, je représente le seul protecteur de Mademoiselle de Plémont. Je suis implicitement son mari, j'agis en conséquence, et je prends un conseiller pour elle. Si c'est contre l'usage, la correction, qu'importe. Comme avocat, te donnera-t-on les pièces qui concernent l'enquête ? Un peu plus tard, quand je serai officiellement et non officieusement l'avocat de la défense. Tu crois que M. de Montvoy ne répondra pas dès ce soir à tes questions ? Si, il me répondra. C'est du reste au juge d'instruction à apprécier s'il doit ou non parler dans telle ou telle circonstance, et il agite avec toi d'une façon très particulière. Alors pars, Henri. Après un peu d'hésitation, l'avocat dit à voix basse : Ainsi, tu ne changes pas d'avis ? Je ne suis ni un cuistre ni un lâche. Monsieur Desjonchères partit sans essayer de discuter et fut accueilli cordialement par Monsieur de Montvoy. Ah, mon cher Jonchères, charmé de vous voir. Quoi de nouveau ? Je suis envoyé par le docteur Sebron. L'expression du magistrat changea aussitôt. Il vous a tout raconté ? Tout. Il me prend dès aujourd'hui comme avocat de cette pauvre fille, si on l'arrête. Si on l'arrête, doute-t-il encore ? Il ne doute pas, non. Il est sûr d'aimer une femme admirable, idéale. C'est désolant. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit en réfléchissant aux conséquences de cette obstination. J'ai beaucoup aimé le père de Sebron, et si, lui, je l'ai peu vu depuis quelques années, je lui conserve néanmoins une amitié sincère, et c'est avec le plus vif intérêt que j'ai suivi les succès de sa brillante carrière. Je voudrais, avant tout, que son nom ne parût pas dans cette triste affaire. Quoi, votre opinion est-elle donc déjà et sérieusement formée ? Du moins, les charges sont accablantes. Est-ce que personne dans la maison, en dehors de Mademoiselle de Plémont, ne peut être soupçonné ? Chacun, elle exceptée, était chez soi le soir du crime. Tous les locataires ont été minutieusement interrogés. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Seule Sophie Brion, la femme de charge, qui habite une chambre voisine du petit appartement occupé par Mesdames de Plémont, a ouvert sa porte au moment où la jeune fille descendait de chez M. de Chantepie. Mademoiselle de Plémont lui a dit « Je compte sur vous demain matin avant 6 heures. Vous mettrez les chambres en ordre après notre départ. Ma mère dort et je vais dire adieu une fois encore à notre parent. » Donc Mademoiselle de Plémont est allée seule lundi soir chez M. de Chantepie. Mais cette Sophie Brion, est-on sûr d'elle ? N'avait-elle pas également une clé qui lui permettait d'entrer pour son service et, comme elle l'entendait, chez M. de Chantepie ? Elle est très estimée et a la confiance de toute la maison. C'est la veuve d'un employé de commerce qui lui a laissé un petit avoir qu'elle a presque entièrement sacrifié pour élever son fils et lui donner une bonne instruction. Malgré l'estime dont elle est entourée, j'ai dirigé mes investigations de ce côté et rien ne peut la faire soupçonner. Quant à la clé qui lui permettait d'entrer chez M. de Chantepie, elle est restée hier soir chez le concierge qui, à 8 heures le matin, devait remplacer la femme de charge chez le vieillard. Pourquoi ? Parce que, de bonne heure, elle allait voir son fils, assez souffrant. Elle est rentrée à 9 heures. C'est donc le concierge qui devait servir à M. de Chantepie son petit déjeuner. Et ce concierge ? Un brave homme qui a causé dans la loge avec sa femme et 2 amis jusqu'à 1 heure avancée de la soirée. Mais il a pu entrer quelqu'un ? Les concierges ont bien des distractions. D'après Sebron, M. de Chantepie n'avait ni verrou ni chaîne de sûreté à la porte de l'escalier de service. Non, il s'était borné à une serrure plus forte et plus compliquée que les serrures ordinaires. Il avait des manies singulières, comme vous savez. Personne le soir n'est entré dans la maison, car la porte de la rue est fermée à 9 heures. Dans la journée, on a pu se glisser et se cacher. Jusqu'ici, aucun indice ne le fait présumer. Et puis, ce personnage supposé connaissait donc intimement M. de Chantepie pour être au courant de ses habitudes. Tant de choses invraisemblables sont vraies, dit M. Desjonchères d'un ton découragé. Bien qu'il ne fût pas intéressé personnellement dans l'affaire, il éprouvait l'écrasement d'une conviction terrible. Décidez votre ami à ne pas paraître comme fiancé, reprit le magistrat. Suppliez-le. Mettons les choses au mieux. L'innocence de la jeune fille est prouvée. Bien. Reste le père. Son procès a eu lieu au fond de la province. Il n'est pas connu, mais dans les circonstances actuelles, la honte s'étalera au grand jour. Bernard est amoureux fou. De plus, l'honneur chez lui est chevaleresque et il est homme, quand il aime, à ne reculer devant aucun dévouement. Le père ne l'arrêtera pas. Bien, bien, j'admets. D'autant que ce malheureux est très malade et n'a peut-être pas 3 mois à vivre. Mais, hélas, vous voyez vous-même l'enchaînement des faits. Jamais cause, au premier abord, n'a été plus lumineuse. Sébron est trop affirmatif et connaît trop bien cette jeune fille pour que je la croie coupable, répliqua M. Desjonchères, qui entrait dans son rôle de défenseur. N'avez-vous aucun indice sur la nouvelle demeure de Mme de Plémont ? Non, il est plus malaisé de découvrir 2 femmes d'apparence honnête que des rôdeurs de barrières. L'avocat revint très malheureux chez lui. Il n'omit aucun mot de sa conversation avec M. de Monvoy et supplia Sébron de renoncer à sa fatale idée. « Et toi, dit sèchement Bernard, tu abandonnerais la femme que tu aimes, que tu sais innocente ?»« Innocente, c'est la question douteuse et pour mon affection, il s'agit de toi. Attends du moins, ne te mets pas en avant. Moi, son avocat, je ferai tout au monde pour la sauver. » Il développa ses idées pendant que la physionomie de M. de Sébron, ordinairement calme et ferme, exprimait peu à peu une si violente colère que M. Desjonchères s'arrêta court. « Tais-toi, ou je ne sais !» Sans achever, Bernard quitta subitement son ami désolé et revint chez lui à grands pas, coudoyant sans les voir les rares passants et se demandant s'il n'allait pas devenir fou de chagrin.